Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre émission hebdomadaire sur le diabète. Je suis le docteur Radaoui du service d'endocrinologie du centre hospitalier. Comme vous l'avez sans doute remarqué, pour cette nouvelle rentrée, nous avons opté pour des lives en binôme où nous invitons des spécialistes à venir intervenir sur des thématiques un peu plus précises sur les complications du diabète pour favoriser les échanges. Et de temps en temps, comme aujourd'hui, nous garderons quand même le modèle habituel pour favoriser vos questions en direct, vos questions générales sur le diabète. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en essayant tout de même de rester assez général. Le but n'étant pas de faire une consultation personnalisée, mais plutôt de donner des informations qui puissent être utiles au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En attendant, comme à notre habitude, je vais aborder les questions qui ont été posées au préalable par nos internautes. Et à l'annonce de cette thématique sur notre page Facebook, je vous invite à vous abonner pour recevoir cette information et poser vos questions en amont. Je resterai assez brève pour privilégier le direct, donc en attendant vos questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. J'y reviendrai après ces trois thématiques. Donc j'ai dégagé trois thématiques sur vos questions récurrentes, notamment la première thématique finalement qui vous préoccupe très souvent, qui concerne le régime diabétique et les règles hygiénodiététiques à mener pour maîtriser le diabète et les traiter au mieux. Alors c'est en effet le premier traitement du diabète. Il va être essentiel tout au long de la maladie pour équilibrer les glycémies. Vous avez posé de nombreuses questions sur le régime diététique précisément. Alors je vais commencer par évoquer cette notion de régime que nous autres endocrinologues et diététiciens, nutritionnistes, nous aimons peu, puisque le mot régime fait appel à des restrictions, à des interdits, et donc à des frustrations et expose le patient à des craquages, et qui expose également au phénomène yo-yo et à la prise de poids aggravée. Donc on va davantage parler d'une alimentation équilibrée que de régime. C'est finalement ce qu'on recommande à la population générale, plutôt que de parler de régime. Alors, quels sont les principes d'une alimentation équilibrée et saine? Quels sont les pièges à éviter? Brièvement, je vais vous évoquer les grandes lignes. On va favoriser une alimentation tout d'abord équilibrée. Donc, le mot équilibre correspond à la répartition des nutriments au cours des repas. On va faire attention au fait qu'il y ait toujours les trois nutriments à chaque repas, à savoir les légumes, qui doivent représenter à peu près 50% de votre assiette, les protéines qui doivent représenter à peu près un quart de votre assiette et bien évidemment les féculents, donc qui sont les sucres lents, qui doivent correspondre au quart restant. Quelques conseils concernant ces différents nutriments. Les protéines et les féculents sont évidemment très importants puisque c'est eux qui vont vous permettre d'avoir cette sensation de satiété et d'éviter d'avoir faim quelques heures après le repas, ce qui vous expose au grignotage. Les protéines, on va vous recommander de favoriser plutôt les viandes maigres, les viandes blanches, limiter les viandes rouges. Bon, l'idée, c'est évidemment pour les trois nutriments de varier et d'éviter tout ce qui est riche en matière grasse. Pour ce qui est des féculents, on va vous conseiller de favoriser les farines complètes. Vous savez qu'aujourd'hui, les farines industrielles, malheureusement, sont très transformées et s'apparentent parfois davantage à des sucres rapides, à l'index glycémique élevé, qu'au véritable sucre lent. Donc, vous aurez tout intérêt à privilégier les farines complètes qui permettent un effet satiétogène plus important pour des plus petites quantités et qui vont avoir un index glycémique plus faible. Donc, ils vont éviter une montée glycémique trop importante qu'on peut observer aujourd'hui avec le pain blanc ou les pâtes par exemple ou certains riz. La deuxième notion importante, c'est de structurer son alimentation, c'est-à-dire bien respecter les 3 repas par jour manger quand on a cette sensation de faim et pas parce que c'est l'heure ou parce que c'est obligatoire, donc respecter les signaux internes. L'idée étant évidemment de lutter contre ce grignotage qui est un véritable fléau pour la prise de poids puisqu'il va être à l'origine d'une sécrétion d'insuline tout au long de la journée, pour les gens qui grignotent tout au long de la journée. Et vous savez qu'un hyperinsulinisme et une sécrétion trop importante provoquent et aggravent la prise de poids. Donc, il va être important d'éviter ce piège. Voilà pour les principes de base. Je vais maintenant évoquer les pièges à éviter, que sont le plus fréquemment la quantité. Donc, soyez vigilant à ne pas trop vous servir en termes de féculents. Essayez de respecter cette répartition d'un demi d'assiette pour les légumes, un quart pour les féculents et un quart pour les protéines, sans rentrer dans le grammage, pour faire simple. Évitez également de vous resservir. Évitez d'abuser également sur le pain. On recommande en général 40 grammes de pain à chaque repas. Autre piège classique, ce sont évidemment les aliments riches en matières grasses et en sucre rapide qu'il faut essayer de limiter. Donc tout ce qui est sauce, fast-food, pizza, viennoiserie, qu'on va retrouver les matières grasses, que ce soit dans les produits sucrés ou salés. Donc ça doit rester des aliments plaisir occasionnels et pas quotidiens. Enfin, on va faire attention aussi à la consommation de fruits, puisque ça reste un sucre qui est le fructose, un sucre lent, mais qui a un index glycémique plus ou moins élevé selon la maturité, selon le fruit. Donc en général, on recommande un apport de 3 fruits par jour. Quand on dit 5 fruits et légumes, il y a aussi les légumes dans les 5 fruits et légumes. Enfin, pour ce qui concerne les boissons, on va favoriser évidemment l'eau. Il faut éviter les soda ou l'alcool qui doivent rester occasionnels. Donc vous voyez que ce sont finalement des conseils généraux qu'on prodigue à la population générale. On ne parle plus de régime diabétique, mais une alimentation équilibrée. Il ne faut pas oublier de s'autoriser quand même quelques plaisirs qui doivent rester occasionnels et qui doivent être maîtrisés pour éviter ces craquages et ces frustrations qui exposent le patient à une alimentation anarchique. Évidemment, les répétitions d'erreurs au quotidien qui vont provoquer un régime déséquilibré et des hyperglycémies chroniques qui déséquilibrent le diabète. À cette alimentation équilibrée, pour revenir de façon plus générale aux règles diététiques, on va associer bien évidemment une activité physique régulière. Donc les études ont prouvé depuis déjà bien longtemps que la morbimortalité est largement diminuée par l'activité physique, associée à une diminution, via une diminution pardon, du tour de taille, puisque vous savez que ce tour de taille va être corrélé aux maladies métaboliques que sont le diabète, l'hypertension, le cholestérol et la goutte. Donc on sait que le sport va nous permettre de réduire ce tour de taille et donc maîtriser ces différentes maladies et ces paramètres métaboliques. On va commencer d'abord par lutter contre la sédentarité pour les gens qui ne sont pas sportifs à la base. Donc c'est des petites choses au quotidien comme par exemple favoriser les déplacements à pied, favoriser les escaliers à l'ascenseur, diminuer aussi le temps d'écran qui devient un véritable fléau, que ce soit la télévision, les tablettes. Donc en général on recommande un maximum de 6 heures par jour. Il faut essayer d'être en dessous de cette norme puisqu'elle aggrave la sédentarité. Enfin, pour ce qui concerne l'activité sportive, on va conseiller une activité plutôt de votre choix, que vous appréciez. Hein, l'idée, c'est pas forcément de vous mettre au footing ou à une salle de sport si vous n'aimez pas ça, parce que vous n'allez pas y retourner. Donc, l'idée, c'est de pérenniser l'activité et d'être sûr de la maintenir sur du long terme. Et on recommande généralement au moins 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine, pour parler d'une activité sportive régulière. Voilà pour les règles gynodiététiques et le mot régime qu'il faut essayer de bannir, hein, plutôt une alimentation structurée, équilibrée, qui vont vous aider à traiter votre diabète sur les premières années et à maîtriser le diabète tout au long de la maladie. Donc c'est tout à fait la base du traitement. Donc il faut rappeler quand même que si ces mesures sont nécessaires, elles ne suffisent plus au-delà d'un certain terme. Le diabète est une maladie, je rappelle, évolutive, et selon son ancienneté et la sévérité, elle nécessite bien souvent d'autres traitements médicamenteux qu'on va venir ajouter à ces mesures de règles gynodiététiques. Je parle bien pour les diabétiques de type 2. Chez les diabétiques de type 1, ces mesures sont tout de même recommandées pour maîtriser mieux le diabète. Mais chez le diabétique de type 2, elles sont évidemment le socle du traitement. La deuxième thématique qui a été largement abordée est la problématique, finalement, dans la continuité des règles gynodiététiques pondérales, dans le diabète de type 2 notamment. Comment parvenir à maigrir? En effet, l'enjeu pondéral, vous le savez, est majeur, hein, puisque la physiopathologie initiale qui est liée à l'insulinorésistance va dépendre de ce poids et va être aggravée par le surpoids ou l'obésité. On est dans ce cercle vicieux qu'il faut essayer de casser, puisque cette insulinorésistance est aggravée par le poids, qui va provoquer un hyperinsulinisme qui lui-même est à l'origine d'une prise de poids. Donc on tourne en rond et il faut absolument casser ce cercle pour essayer d'obtenir un meilleur équilibre glycémique et une perte de poids. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est évidemment d'avoir des règles gynodiététiques adaptées, comme je vous l'ai évoqué. On ne va pas revenir sur ce sujet. La deuxième façon d'essayer de maîtriser le poids ou de lutter contre la prise de poids chez le patient diabétique, c'est de privilégier des molécules, les thérapeutiques, qui sont en faveur de la perte de poids. Alors chez le diabétique de type 2, vous savez que le premier traitement recommandé reste la metformine, notamment pour le fait qu'elle lutte contre l'insulinorésistance. C'est le seul insulinosensibilisant qui est disponible encore sur le marché et ça reste le plus efficace dans ce sens. En deuxième intention, une fois que la metformine a été utilisée, on va privilégier chez les patients souffrant de surpoids ou d'obésité les molécules qui vont éviter la prise de poids, voire aider à la perte de poids. Dans ce sens, aujourd'hui, on dispose de nouvelles classes thérapeutiques que sont les inhibiteurs SGLT2 qui, par le biais de la glycosurie, vont permettre une perte calorique et donc une légère perte de poids qui reste modérée, environ 2 à 3 kilos. Et pour ce qui est de la deuxième classe qui est beaucoup plus ancienne, mais qui dans sa forme est hebdomadaire et plus récente, ce sont les analogues GLP-1 qui pour le coup vont avoir un effet beaucoup plus important sur la perte de poids et sur l'hémoglobine glycée, puisqu'on a une perte moyenne estimée de 3 kg, mais en pratique, nous avons des patients qui arrivent à atteindre une perte de 10 kg, que ce soit avec l'Ozempic ou le Trulicity. Donc ce sont des analogues GLP-1 qui vont permettre d'équilibrer le diabète et la perte de poids par leur effet satiétogène cérébral. Ils vont également permettre le ralentissement de la vidange gastrique, ce qui vous donne un effet de satiété plus précoce. Donc on arrive généralement à satiété et on finit pas l'assiette grâce à ces molécules. Et puis ils vont aussi limiter la sécrétion d'insuline, bien que ce soit des insulinosécréteurs. On les appelle intelligents puisqu'ils ne sécrètent pas de l'insuline en permanence, mais seulement à l'arrivée du bol alimentaire, donc au moment des repas, et évitent un hyperinsulinisme, d'aggraver en tout cas cet hyperinsulinisme présent chez les diabétiques de type 2. Donc vous comprenez bien que l'avantage de ces molécules est certain chez les patients souffrant de surpoids ou d'obésité par rapport par exemple aux sulfamines que l'on va éviter puisqu'ils sont insulino-sécréteurs de façon permanente et qu'ils provoquent généralement une légère prise de poids de 1 ou 2 kg et exposent en plus le patient aux hypoglycémies. Donc on va privilégier davantage ces molécules chez les patients souffrant de surpoids ou d'obésité. D'autres solutions plus radicales vont exister pour les patients notamment qui souffrent d'obésité de grade 2 ou 3 ou de super-obésité qui rend la maîtrise du diabète difficile. On peut proposer des chirurgies bariatriques qu'on appelle dans ces cas-là des chirurgies métaboliques puisqu'elles vont nous aider à maîtriser l'ensemble des complications métaboliques avec une nette réduction de la morbidité-mortalité et notamment sur le plan cardiovasculaire. Cette perte de poids assez conséquente va nous permettre bien souvent de diminuer les traitements, de sevrer certains médicaments pour le diabète qu'on considère parfois en rémission, jamais en guérison. Hein. Je rappelle qu'il s'agit d'une maladie chronique pour des diabètes, mais pour des diabètes récents et non sévères. Hein. Donc ce n'est pas le cas pour tout le monde. On n'arrête pas tous les traitements antidiabétiques, mais une partie où on peut diminuer des doses d'insuline grâce à cette chirurgie métabolique. Enfin, pour les patients sous multi-injection ou les diabétiques de type 1 qui peuvent également souffrir d'obésité, la pompe à insuline peut également être un avantage certain pour favoriser la perte de poids puisqu'elle permet une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, en général, on arrive à réduire fortement les doses d'insuline et entraîner une perte de poids par ce biais chez les patients sous multi-injection. Donc, ça peut être également une solution envisagée chez ces patients. Je vais maintenant passer à la dernière thématique qui a été abordée, notamment par chez Dianic, sur les nouveautés et les nouveaux progrès dans le domaine du diabète. Rapidement, pour les diabétiques de type 2 non insulino-traités, je ne vais pas revenir sur les deux classes thérapeutiques que j'ai évoquées, les analogues GLP-1 et les inhibiteurs SGLT2. Simplement, une nouveauté concernant le Trulicity qui offre à présent deux dosages, puisqu'on a nous disposions du dosage à 1,5 mg. À présent, nous disposons du dosage à 3 et à 4,5 mg qui, grâce à l'étude Howard, a montré une meilleure efficacité sur la diminution de l'hémoglobine glycée jusqu'à 1,9 kg pour la dose de 4,5 mg et une réduction pondérale jusqu'à 4,7 kg pour le dosage également à 4,5 mg. Donc avec un profil similaire en termes d'effets secondaires, notamment sur le plan digestif. La nouveauté que nous avons également largement évoquée, que sont les inhibiteurs SGLT2, nous disposons du Forxiga et plus récemment du Jardiance en France. L'effet notoire est essentiellement la réduction de la morbidité-mortalité. Donc c'est la première classe thérapeutique dans le diabète qui permet une réduction de la mortalité toutes causes confondues jusqu'à moins 30% et des causes cardiovasculaires jusqu'à 38%. Donc c'est un réel progrès dans le domaine de la prévention du diabète, alors que l'effet sur le diabète reste modéré puisque la réduction de l'hémoglobine glycée est de 0,5 à 1%. Ces molécules sont davantage intéressantes pour l'aspect de cardioprotection, protection, néphroprotection et de réduction de morbimortalité au point que ces molécules vont probablement prochainement être également indiquées et la prescription va être élargie aux spécialistes que sont les cardiologues et les néphrologues du fait de leur effet en dehors du diabète. Les nouveautés pour les patients diabétiques sous multi-injection ou les diabétiques de type 1 vont concerner surtout les nouvelles technologies, donc dans plusieurs domaines. En ce qui concerne les capteurs, vous savez que nous disposons à présent du Freestyle Libre 2 qui vient remplacer le Freestyle Libre 1 et qui offre une meilleure précision en ce qui concerne les glycémies interstitielles, effectivement. notamment pour les hypoglycémies. Vous allez également disposer d'un nouveau système d'alarme qui peut être décidé par le patient et le médecin en termes de seuil en ce qui concerne l'hypo, l'hyper ou la perte de signal que l'on peut activer au choix ou non. D'autres nouveautés concernant les pompes à insuline, c'est bien sûr le pancréas artificiel que nous vous avons évoqué. Donc nous disposons à présent de deux systèmes. Donc ce sont des boucles automatisées, des boucles semi-automatisées, semi-fermées, qui associent une pompe à insuline, un capteur et un algorithme d'intelligence artificielle qui va permettre de corriger les hyperglycémies avec la modification du débit basal ou des bolus correcteurs, en plus de l'administration des bolus par le patient, et qui arrête également la pompe en cas de tendance hypoglycémique pour éviter les hypoglycémies. Nous avons d'ores et déjà eu la chance à Perpignan d'installer plus d'une trentaine de dispositifs avec le premier pancréas artificiel disponible, qui est la pompe G780 de Medtronic, associée au capteur Sensor 3, avec des résultats franchement intéressants, puisque nous avons une augmentation du temps dans la cible, une nette diminution de l'hémoglobine glycée, du temps en hypoglycémie et de la variabilité. Nous allons avoir très prochainement la chance d'installer le deuxième système disponible depuis très peu en France, qui est la pompe Tandem associée au capteur Dexcom G6 et qui va permettre également avec un algorithme différent qui devrait permettre les mêmes résultats d'amélioration d'HbA1c, de temps en hypoglycémie et de variabilité. Ces deux dispositifs sont disponibles mais non remboursés en France, donc les démarches sont en cours et nous espérons un remboursement pour 2022. Voilà pour les nouveautés. J'ai pris un petit peu de retard. Je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, j'ai une question de Bou Abdallah qui pose la question, peut-on basculer, si j'ai bien compris, d'un diabète de type 1 à un diabète de type 2 ? Alors, non, en général, le patient diabétique de type 1 reste type 1 puisqu'il s'agit d'une maladie auto-immune avec une destruction totale de la fonction des îlots de Langerhans, donc il n'y a plus de production d'insuline, alors que le type 2, la physiopathologie va être différente, comme vous le savez, puisqu'il y a cette insulinorésistance associée à une insulinopénie, mais on estime que 50% du stock d'insuline est encore conservé et qu'il va petit à petit venir diminuer. Donc on peut basculer par contre sur un type 2 initialement traité par antidiabétiques oraux à la nécessité de mettre en place de l'insuline, et on parle alors de diabétique de type 2 insulinodépendant qui peut disposer du même traitement que le diabétique de type 1. Donc on a plutôt tendance à évoluer dans ce sens, mais l'inverse pour le type 1 est rarement vrai. Il peut exister en revanche au début de la maladie, chez le type 1, une période qu'on appelle lune de miel, qui répond aux antidiabétiques oraux pour quelques mois, voire quelques années chez certains patients, mais il faut rester très prudent, c'est bien pour ça qu'on parle de lune de miel, puisque ça ne dure pas, et que les patients basculent très rapidement sur l'insulinopénie, et rester vigilant à ce moment où on nécessite de l'insuline et qu'il faut changer le traitement. Est-il possible, Alex, de guérir du diabète de type 2 ? C'est une question assez classique. Non, on ne guérit pas du diabète. Ça reste une maladie à vie chronique. On peut être en revanche en rémission ou maîtriser le diabète par simple règles gynodiététiques. Donc on parle à ce moment-là de ça reste un traitement, les règles gynodiététiques. Hein, donc on ne considère pas pour autant le diabétique comme guéri s'il se traite en faisant attention à son alimentation et en réalisant une activité physique régulière, puisque la physiopathologie d'insulinorésistance et d'insulinopénie est enclenchée quoi qu'il en soit. Et elle peut être évolutive, on peut maîtriser les choses et ralentir l'évolution, mais ça dépend également de la sévérité familiale. Hein. Je rappelle que le diabète de type 2, c'est une maladie héréditaire. On a des diabètes plus ou moins importants, d'où la différence et l'adaptation des traitements nécessaires selon les patients. Vous n'êtes pas les mêmes diabétiques, vous n'avez pas la même sévérité de maladie. Donc c'est pour nous justement d'adapter le traitement au mieux, mais pour autant on ne parlera jamais de guérison. Alors, je continue. Oula, ça va trop vite. Vous êtes nombreux, hein. Merci à vous, j'essaie de faire au mieux. Une question concernant l'insuffisance rénale et la metformine de Nasser. Est-ce que la metformine est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale modérée ? Alors oui, vous savez qu'en cas de... Alors ça dépend du taux d'insuffisance rénale, hein, de la gravité de l'insuffisance rénale. Vous savez qu'on la classe selon différents stades. Et selon la clairance, aujourd'hui c'est CADEPI qu'on considère la plus précise. En sachant que la metformine reste notre allié le plus efficace en première intention, on va être prudent à soit l'adapter, soit l'arrêter selon la clairance. Donc on estime jusqu'à 40, une clairance qui commence à être limite pour le patient, où on va débuter l'adaptation de traitement. En dessous de 35, en revanche, on arrête totalement la metformine. Le risque étant bien sûr l'acidose lactique. Hein. Ce n'est pas la metformine, contrairement à ce que de nombreux patients pensent, ce n'est pas la metformine qui provoque l'insuffisance rénale, mais c'est le fait de ne pas filtrer la metformine qui se cumule qui va provoquer cette acidose lactique qui peut être très menaçante pour le pronostic vital. Donc dès lors qu'on a une insuffisance rénale, on la surveille, on adapte le traitement si celle-ci s'aggrave, voire on l'arrête selon le chiffre de la clairance. Donc je vous invite à vous rapprocher de votre médecin pour en discuter. Une question de Chérif concernant le prix du pancréas artificiel par rapport au dispositif de pompe associé au capteur. Alors le pancréas artificiel reste une association de pompe et capteur. Donc finalement on achète, ce qu'on va apporter de plus, c'est l'intelligence artificielle, c'est cet algorithme. Donc la différence de traitement, de prix finalement, entre pompe capteur et intelligence artificielle, elle est environ de 500 €. Donc vous voyez que c'est pas donné, mais on espère un remboursement très, très prochainement en France pour ces pancréas artificiels qui sont une véritable plus-value et une révolution pour les diabétiques type 1 qu'on a du mal à équilibrer. Après, Hicham nous demande, la bithérapie ISGLT2 metformine est-elle la meilleure association en cas d'échec à la metformine ? Oui, effectivement. Alors, on va adapter, hein, une fois de plus, selon le profil des patients, le traitement. Dans les recommandations actuelles, ce n'est pas ce qu'on recommande en deuxième intention. Hein, les gliptines ou les sulfamides viennent se positionner probablement pour des raisons économiques. Mais il est vrai que chez des patients au profil cardiovasculaire ayant des complications débutantes ou une insuffisance rénale débutante avec une néphropathie diabétique qui viennent de faire un événement cardiovasculaire, nous n'hésitons pas, pour notre part en tout cas, à associer les inhibiteurs SGLT2 pour leur aspect néphro et cardioprotecteur et leur effet métabolique. Donc à mon sens, c'est une très bonne association effectivement, dès lors qu'on respecte les contre-indications et l'efficacité par rapport à l'insuffisance rénale. Donc Karine, j'espère avoir répondu à votre question concernant le remboursement des boucles fermées qu'on attend avec impatience. Alors, Fatima nous pose la question de la relation entre diabète et goutte. Il paraît que consommer de la viande rouge est nocif pour le diabétique. Alors effectivement, le diabétique de type 2, une fois de plus, présente ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc c'est un syndrome héréditaire qui fait partie de ce packaging dont hérite le patient de sa famille et qui le prédispose à ces maladies métaboliques. Donc c'est le syndrome métabolique, c'est une tendance à prendre du poids au niveau du ventre, hein, ce qu'on appelle une obésité ou une prise de poids androïde avec une augmentation du tour de taille. Et c'est cette prise de poids qui va exposer les patients à ces maladies métaboliques. Donc dans le syndrome métabolique, on associe diabète, hypertension, cholestérol et goutte. Donc le lien est là. Donc effectivement, les diabétiques de type 2 ayant un syndrome métabolique, ils ont plus de risque de faire de l'hyperuricémie. Donc c'est cette urée, c'est l'acide urique qu'on va doser dans le sang en cas de suspicion de goutte qui confirme le diagnostic. Et donc nous recommandons effectivement aux diabétiques qui ont des antécédents de goutte ou qui sont prédisposés à limiter la consommation de viande rouge. Mais cette recommandation est valable pour tout le monde, hein. Donc vous savez quand même que ça reste une viande grasse et que les apports une à deux fois par semaine sont suffisants pour couvrir nos besoins. Ça reste une viande grasse qu'il faut limiter. Donc, de là à dire qu'elle est nocive, je dirais que non. Tout doit être géré avec modération. Il n'y a pas d'aliments à interdire ou à proscrire. Sarah, qui partage son expérience pour la 780 et qui trouve ça top. J'ai eu l'occasion ce matin de revoir des patients qui disposent de ce... nos premiers patients que nous avons équipés il y a maintenant presque un an et qui effectivement ont des résultats franchement spectaculaires hein, avec une variabilité à moins de 30%, une hémoglobine glycée à moins de 7%. Nous en sommes très contents aussi. Jamila qui nous parle de son diabète et qui est sous régime. Et je reviens un petit peu à ce que justement j'ai évoqué au début de cette live, mais pour autant son diabète n'est pas maîtrisé. Comme je vous disais Jamila, cela ne dépend malheureusement pas que des règles gynodiététiques. Selon l'ancienneté et la sévérité du diabète dans votre famille, vous semblez nécessiter un traitement médicamenteux en plus des règles gynodiététiques. Donc je vous invite à aller voir votre médecin traitant et débuter un traitement. En général, en première intention, on recommande la metformine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Driss qui nous dit justement avoir entamé des règles gynodiététiques adaptées et qui est pour autant sous metformine 500. Avec un diabète normalisé, faut-il pour autant arrêter le médicament ? Donc ça aussi, c'est une question assez classique. En général, vu l'effet insulino-sensibilisant, donc épargnant aussi de la réserve d'insuline, le fait que ça lutte contre cette insulino-résistance et cet hyperinsulinisme, on a tendance à garder la metformine pour justement éviter l'évolution du diabète le plus longtemps possible et empiler d'autres thérapeutiques. Donc on a tendance plutôt à la garder, Driss, pour cet effet bénéfique et protecteur sur le pool insulinique restant. Donc je vous conseille de la garder, on a même tendance à l'augmenter à la plus forte dose tolérée, à savoir 1000 mg deux fois par jour pour avoir le plein effet. Isabelle me demande, en tant que prédiabétique, peut-elle, avec un régime équilibré, éviter l'évolution vers le diabète ? Oui, effectivement Isabelle, hein, c'est un petit peu l'idée de cette live, en sachant bien évidemment que cela ne dépend pas que du régime, mais de la sévérité de votre diabète et de son ancienneté. Donc peut-être qu'on peut gagner du temps et éviter de multiplier les thérapeutiques, mais certains patients arrivent à stabiliser avec un régime équilibré sans jamais avoir besoin de traitement. Peut-être la dernière question. Donc, j'ai fait un petit peu de rab étant donné que j'ai pris du retard dans ma présentation. Je suis vraiment désolé, vous êtes nombreux, les questions sont nombreuses. Traitement de la neuropathie. Alors, on aura l'occasion d'inviter le chef de service de neurologie c'est les prochains jours. On vous annoncera la date. On abordera la neuropathie. Le premier traitement, rapidement, en plus en détail, c'est évidemment d'équilibrer son diabète, puisqu'on sait que l'hyperglycémie va provoquer cette neuropathie périphérique et aggraver ses douleurs. Et il existe également des traitements médicamenteux, qu'ils soient anticonvulsivants ou antidépresseurs, mais à visée antalgique sur ces douleurs, qu'on va mettre de façon chronique pour les patients dont les douleurs sont invalidantes. Donc il existe le Sabalta par exemple ou le Lyrica, on y reviendra. Je vais conclure cette live puisque nous sommes déjà à plus d'une demi-heure. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver et je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine avec le docteur Hyde et le docteur Bonneau qui vont aborder la problématique plus précise pondérale et qui vont évoquer les avantages de la chirurgie bariatrique et puis nous reviendrons sur des lives avec des questions plus générales pour privilégier le direct. Merci d'avoir été avec nous.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.